Demain, c'est le jour du souvenir. Et ça fait partie, on va dire, de l'histoire, on va dire, en tout cas pour certains, ça fait longtemps, même ça nous échappe. Mais si on vit dans un pays d'abondance et de liberté, c'est justement parce qu'il y en a qui nous ont précédés puis qui ont été prêts à payer de leur vie, verser leur sang pour qu'on puisse avoir cette liberté. Et cela, on va dire, m'amène à. On va observer tantôt ce qu'on appelle le repas du Seigneur. Et ça aussi, c'est une occasion de se souvenir. De se souvenir de Jésus-Christ qui a versé son sang, il a donné sa vie pour nous donner la vraie liberté. La liberté qui va durer jusque dans l'éternité, prendra jamais fin. Et sans doute que vous êtes comme moi, vous aspirez à ce jour-là, que ça soit enfin, enfin. Mais Dieu a décidé, en tout cas pour l'instant, c'est lui qui va décider quand ça va se finir et éclore et pouvoir jouir justement de cette liberté. Alors, on a mille et une raisons de se souvenir de bien des choses. Il y a des choses qu'on aimerait autrement pas se souvenir, mais au moins on a des bonnes choses pour lesquelles on peut se souvenir. Alors, ce matin, on continue dans la série que je suis en train de faire sur c'est les catastrophes, là. Je pense que c'est presque la dernière catastrophe et on va passer à autre chose. Mais en tout cas, c'est qu'il faut comprendre les catastrophes pour réaliser ce que Dieu en réserve, OK? Alors, prions notre Dieu. Père éternel, on veut te remercier pour qui tu es. Merci pour ton Fils que tu as donné afin qu'on puisse justement avoir la liberté, la paix, la sécurité, le bien-être auquel on aspire tous, qui n'est pas tout à fait encore une réalité, mais parce que tu es le Dieu de vérité, on sait qu'un jour ça va se réaliser et on veut te remercier. En attendant, Seigneur, tu nous as laissé ta parole, tu nous as laissé ton esprit, tu veux nous accompagner, tu veux nous instruire, tu veux nous faire prendre conscience des vérités de ta parole, afin qu'on puisse se souvenir de qui tu es et ce que tu as fait pour nous par l'entremise de ton Fils Jésus-Christ. Père éternel, merci pour chacun qui est ici ce matin. Que chacun puisse repartir avec des vérités qu'ils ont peut-être déjà entendues, mais que tu veux leur rappeler et que tu veux les rassurer avec ces vérités et qu'on puisse retourner chacun chez soi, reconnaissant justement, que tu te soucies de nous et que tu veux continuer à prendre soin de nous et faire ton œuvre en nous et à travers nous, par ton esprit et par ta grâce. Au nom de ton Fils. Amen. Plus qu'on a du millage dans notre vie, notre vécu, plus on réalise que la communication n'est pas toujours facile. Hein? Puis même entre ceux qui parlent la même langue, c'est étonnant, mais vous avez sans doute vécu des épisodes où ce que c'est que vous parlez la même langue, puis vous échangez, puis en fin de compte, vous réalisez quelque temps plus tard, si c'est pas sur le fait même, hey, j'en ai manqué un bout ou il y a quelque chose qui. Puis même un exemple que j'ai trouvé un peu cocasse, c'est un mari qui lisait un article et il dit à son épouse, est-ce que tu savais qu'en moyenne, les femmes disent environ 3 000 mots par jour, tandis que les hommes n'en utilisent que 15 000? Elle répond, C'est probablement parce que les femmes doivent toujours répéter ce qu'elles ont dit. Puis lui, il dit, « Quoi? » Un peu plus tard, elle lui demande, « Est-ce que tu veux souper? » Il lui répond, « Certainement. Quels sont mes choix? » L'épouse lui répond, « Oui ou non? » Il y a des situations comme ça qui, c'est bien d'en rire, hein? Mais il y a d'autres situations que c'est moins drôle. C'est que lorsque Dieu, tel qu'il est, tel qu'il se révèle, qu'il nous démontre qu'il désire se révéler, communiquer avec nous les êtres humains, puis malheureusement, trop souvent, la communication entre Dieu et nous, ça passe pas. Ça passe pas. Pas parce que Dieu n'était pas clair. Mais c'est parce que nous, on est dur d'oreille, puis on est dur de cœur. Puis, du fait que la communication ne passe pas de notre côté, bien, on doit subir les conséquences de ce manque de communication, d'avoir saisi, compris ce que Dieu avait à nous dire. Mais avant de plonger davantage dans ce volet-là, on va faire une petite révision de la dernière fois, parce qu'on a parlé que l'offre de la miséricorde a une fin. Puis, on l'avait détaillé en disant que Dieu avertit les vivants, Dieu punit les orgueilleux, puis Dieu protège les humbles. Alors, à travers tout ça, Dieu se révèle comme étant un Dieu de miséricorde. Mais cette miséricorde, on va dire, a une limite. Parce que Dieu ne peut pas indéfiniment dire, ben là, il est patient, c'est vrai. Mais à un moment donné, bien, il faut qu'il passe à l'action selon son amour et sa justice. Dans tout cela, Dieu est, on va dire, une des autres caractéristiques, c'est qu'il est souverain. Souverain qui est au-dessus des autres, celui dont le pouvoir n'est limité par aucun autre. Et c'est pour ça que dans la parole, on a à plusieurs reprises qu'il est identifié comme étant le Tout-Puissant. Tout-Puissant. Pas juste presque ou mi-puissant, mais Tout-Puissant. Dieu n'est aucunement influencé par un contrôle externe, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre de l'extérieur qui peut, si on pourrait dire, on va dire, il n'y a pas de bras, mais il lui tord le bras. OK? Vous comprenez? Parce que c'est lui qui est au-dessus de tout. Je disais cette semaine, je cite un peu une partie, c'est bien que ce monde soit celui de Dieu, il a choisi dans sa souveraineté de permettre à Satan, son ennemi, d'exercer une influence démesurée dans les affaires des hommes. Il est souverain, mais il a permis à Satan de mettre la pagaille jusqu'à un certain point, comme on voit dans le récit de Job. Il a dit, tu peux y toucher, mais pas plus que ça. Et c'est la même chose pour nous. Ce matin, on regarde dans Genèse 9, et c'est le récit de la tour de Babel. Et dans ce récit, bien, on voit une fois de plus Dieu comme étant entièrement souverain, c'est lui qui a le dernier mot. Et on le regarde sous quelques volets. Okay? Premièrement, parce que Dieu est le maître souverain, il instruit tous les peuples. Alors, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, qu'on retrouve dans Genèse 1:28, on lit, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. C'est au début. Okay. Après le déluge, après qu'ils sortent pour enfin sortir de tout crampé pendant un peu plus d'un an, ils n'étaient pas vraiment crampés, il y avait de la place en masse. Mais en tout cas, ils étaient renfermés. Okay. Alors, dans Genèse 9:1, ça dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Alors, il a répété ce qu'il avait dit à Adam et Ève. Okay. Et ce qu'avait dit Adam et Ève, puis à Noé et sa famille, est-ce que c'était compliqué? Est-ce que c'était codé de manière que mais qu'est-ce que c'est qu'il veut dire au juste, là? T'sais? J'ai de la misère à comprendre, tu sais. Il me semble qu'il pourrait être plus clair. Mais non, c'était clair. OK? Alors, Noé et sa famille ont reçu la directive de remplir la terre, d'avoir des enfants, de se disperser à partir de l'endroit où ils se trouvaient. Alors, on va lire les 9 premiers versets de Genèse 11, juste pour avoir la vue d'ensemble au quai du récit. Alors, soit que vous pouvez suivre dans votre Bible, qui va peut-être varier un peu avec la mienne, parce qu'on n'a pas tous la même traduction, mais ça ne change rien au récit, OK? Alors, Genèse 11, à partir du verset 1. « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Au verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » Et le verset 8, « L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. » Alors on voit dès le début, ils sont partis de l'endroit où l'arche s'était arrêtée. Et ce qui est, du fait que c'était à ce moment-là la même famille, ils parlaient tous la même langue. Ils avaient toutes les mêmes habitudes, la même culture. On pourrait dire ils pouvaient communiquer entre eux, puis je dirais que ça pouvait se passer assez aisément. Et aussi, on voit que ils étaient entrepreneurs, ils avaient la technologie pour pouvoir faire des briques et se servir du bitume comme ciment pour ériger et construire de grandes structures. Et là, ils ont décidé de construire une ville et une tour, une grande tour, puis dans le but de se faire un nom, de pouvoir rester ensemble. La ville, la tour devenait, si on pourrait dire, le centre d'attraction et on va rester ensemble. On ne se dispersera pas. Hein? C'est un bon plan. Juste une chose. Qu'est-ce que Dieu leur avait dit? Dispersez-vous. Non. Pas une bonne idée. Alors l'homme, dans sa grande sagesse, croit mieux que Dieu ce qui doit être fait. Alors, ils ont eu l'audace de se rebeller contre Dieu et les ordres qu'il avait donnés. On revient à Genèse 11, 3 et 4. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons-nous des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin que de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Alors, ils déclarent, ils s'encouragent mutuellement l'un envers les autres de « Hey, non, nous, on va bâtir une ville, on va bâtir une tour, on va se faire un nom afin de ne pas être dispersés. » Alors, on voit que par leurs paroles, par leurs agissements, ils démontrent la disposition de leur cœur, de leur motivation, de leur intention. Et c'était certainement pas de se soumettre à ce que Dieu leur avait dit. C'était plutôt le contraire. Puis c'était flagrant. Et d'après qu'on peut voir, cette tour avait pour but, on va dire, de quoi? D'atteindre les le ciel, les cieux. Babel, c'est, dans un sens, la première fausse religion organisée par l'être humain. On va s'arranger nous-mêmes, tout seul, à notre manière. Parce que nous, on sait mieux. Nous, on sait. Nous, on sait comment. Alors, on va le faire, puis ça sera à Dieu de s'ajuster à notre horaire, à notre manière. Hein? N'est-ce pas typique de l'être humain? C'est typique de mon cœur à moi. C'est quasiment, on va dire, à cause de notre nature pécheresse, c'est inné. Notre premier réflexe, c'est résister, se rebeller, vouloir faire les choses à notre manière. Puis c'est ça qu'on voit ici. Et qu'est-ce qui est au cœur de cela? Bien, c'est l'orgueil, hein? Alors, chez ces gens, l'orgueil enfre leur cœur. Puis là, ils pensent, puis ils expriment, ils disent, peut-être pas par les mêmes mots, mais par leur attitude, par leur disposition, par leurs agissements. Ils disent, je n'ai pas besoin de Dieu. Il n'est pas vraiment bon. Ou peut-être, je peux m'opposer à celui qui m'a créé et de prendre sa place. Ou peut-être j'existe par ma propre force et par ma propre sagesse. Personne ne règnera sur moi ou ne me dira quoi faire. Moi seul ai le dernier mot sur tous les aspects de ma vie. Je suis maître de mon destin. La chose est, c'est que quand le destin va arriver, ils vont réaliser qu'ils se sont trompés. Mais il va être trop tard. Vous savez, les gens de Babel, là, en tout cas ces gens-là qui voulaient construire cette ville, puis cette tour, ce sont nos ancêtres. On descend d'eux autres. Ne pourrais pas vous dire dans quelle lignée, là, mais ça, ce n'est pas important. Puis la chose est, c'est que si on est véritablement honnête, puis on permet à Dieu de sonder notre cœur, nos pensées, ben on a les traits de famille de nos ancêtres. Puis on pourrait dire, ben oh oui, mais si moi j'avais été là, là, ça aurait été différent. Moi, je n'aurais pas fait ça. Ah non, certain. On est bien trop smart pour ça. Mais on a des traits de la famille, d'orgueil, de rébellion dans notre cœur, dans notre culture. Et qu'on veuille l'avouer, le reconnaître ou non, l'avouer ou non, bien on fait dur. Alors, si on regarde, on recule dans l'histoire, c'est que Satan est à l'origine de la religion, de la philosophie, de croyances impies. La religion est toute tentative de l'homme d'atteindre Dieu par ses propres efforts. Et quand on regarde l'ensemble des Écritures, la religion ne sauve pas. Aussi bien intentionnés que ses adhérents peuvent l'être, eh bien, la religion ne sauve pas. Quelle que soit l'étiquette qu'on veut y donner, y mettre, la religion ne sauve pas. Comment évaluer une religion ou une philosophie, une croyance, comparativement à ce que Dieu a révélé? Bien, on peut se poser la question, mais reconnaît-elle la sainteté de Dieu et le péché de l'homme, ou nie-t-elle les deux? Conduit-elle à l'humilité face à notre péché ou à l'orgueil de notre propre justice? Reconnaît-elle Dieu comme celui qui s'abaisse vers l'humanité? Ou encourage-t-elle l'humanité à essayer de s'élever jusqu'à Dieu? S'appuie-t-elle sur le don gratuit de la grâce de Dieu par l'intermédiaire du libérateur, Jésus, ou s'appuie-t-elle sur les efforts humains pour se mériter la faveur de Dieu par ses propres moyens? S'approche-t-elle de Dieu les mains vides ou essaie-t-elle de convaincre Dieu ou de l'acheter pour être acceptée? Attire-t-elle les gens à Dieu par amour ou par peur? Alors, quelques questions. Il y en aura peut-être d'autres, mais ça vous donne une idée. Quand quelqu'un, quoi? Oh, j'ai pesé sur moi. Okay, excusez-moi. Elle doit le pousser trop. Merci. Moi, je ne vois pas en arrière. Hop. Je me pratique, mais ça ne marche pas. OK. Alors, merci. Mais, comme les ancêtres qui ont voulu construire cette ville, cette tour, est-ce que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, est-ce que ce monde persiste à construire des tours de Babel? Peut-être pas littéralement, là, mais ils ont la même attitude, la même disposition. Alors, puisque Dieu est maître, le maître souverain, il instruit tous les peuples. Alors, ce que Dieu a révélé, c'était pour tout le monde. Et on voit cette idée-là, cette vérité-là, qui est présentée à travers les Écritures. Je vous donne deux exemples. Psaume 96, 3. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Alors, c'est vrai que Dieu a choisi Israël, mais ils avaient comme but, comme mission, de raconter la gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Puis on a dans Apocalypse 14, 6, il, en parlant d'un ange, avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Alors Dieu veut se faire connaître, il communique, il se révèle à l'humanité entière et n'exclut personne. Ensuite, deuxièmement, parce que Dieu est le maître souverain, il demande des comptes à tous. Alors, remarquez la réaction de Dieu dans Genèse 11, versets 5 à 7. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà que ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les en retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. Alors, Dieu est descendu. Ben, Dieu est partout. Pourquoi est-ce qu'il est obligé de descendre? Mais ça, c'est pour notre bénéfice, pour nous aider à comprendre que il est au courant, puis là, il agit, pose un geste pour que nous, on comprenne qu'il regarde ce qui se passe sur la terre, puis dans notre cœur. Puis là, il voit le sérieux, de la gravité de la situation, de l'attitude de ce peuple, de ces gens, qui ne veulent rien savoir de ce qu'il a dit, puis ils veulent faire à leur tête. Puis là, il va les juger. Il va les punir. Parce qu'ils font au contraire de ce que c'est qu'il leur a demandé. Et par ce geste, Dieu révèle également qu'il est juste, parce que disons, avant de prononcer un jugement, un juge, on dirait, qui est équitable, qui est soucieux de la responsabilité qu'il a de rendre un jugement, bien, il va examiner personnellement toutes les preuves afin que, lorsqu'il rend son jugement, bien, ça soit basé sur des faits et pas juste, oh, bien, on va jouer ça pile ou face. Il y a la cour, puis que le juge dit, OK, ben, je suis indécis, fait qu'on va voir ça à pile ou face. Hein? Wow! Un peu, là. on peut choisir une autre option, parce que là, hein? Si je suis innocent, puis qu'on tombe sur le coupable, ouais, mais je suis innocent. Ouais. Le jugement est là. Hein? En tout cas. Alors, Dieu ne joue pas à pile ou face avec nous. Parce qu'il veut rendre un jugement qui est équitable, qui est juste, qui est droit. Et à travers les Écritures, on voit qu'un jour ou l'autre, eh bien, on va être redevable à Dieu. On va devoir lui rendre des comptes. Et je vous donne quelques exemples. OK? Psaume 11, 4. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans le ciel. Ses yeux regardent et il examine les hommes. Alors Dieu observe, Dieu examine. Puis ça dit que tous sont sous son regard. Proverbe 15, 3. Les yeux de l'Éternel sont partout, observant les méchants autant que les bons. Alors, ce verset insiste que les yeux de l'Éternel, de Dieu, sont partout. Personne n'est exclu, ni bon, ni méchant. Et dans Jérémie 16, 17, c'est l'Éternel qui parle. En effet, mes yeux sont attentifs à toute leur voix. Elles ne sont pas cachées devant moi, et leur faute n'échappe pas à mon regard. Alors, les yeux de Dieu sont sur toutes les voies, tous mes agissements, tout ce que je fais, j'entreprends. Rien ne passe inaperçu à ses yeux. Je ne peux pas y en passer une petite vite, comme on dit. Car l'Éternel, Dieu, est unique et sans pareil. Il est souverain, tout-puissant. Il est éternel, toujours présent, existant par lui-même, qui respecte ses alliances, qui est saint, rempli d'amour, de grâce, mais aussi de justice. Et à travers ce qu'il est et ce qu'il veut nous révéler, c'est qu'il veut, qu'il cherche à ce qu'on puisse avoir une relation personnelle avec lui. Il désire cette relation avec nous individuellement, personnellement. Et c'est ce qui est un peu ce qui démontre en s'abaissant, en descendant pour voir ce qui se passe parmi le peuple à Babel. Il désirait renouer, entretenir la relation pour laquelle ça avait été créé. Mais lorsqu'ils ont refusé, préférant de faire à leur tête, bien, il leur demande de rendre compte. Et Dieu fait de même pour tous. Même si on n'en est pas conscient, qu'on ne le reconnaissait pas, qu'on ne veut pas le reconnaître, que, eh bien, on va se retrouver devant lui un jour. Et si on ne s'est pas mis en règle avec lui par la foi en Jésus-Christ, bien, on sera sans excuse, sans prétexte, parce qu'il s'est révélé à sa création, à ses créatures, surtout à nous, êtres humains, avec qui il désirait avoir cette relation unique et particulière. On a déjà vu, depuis qu'on a commencé, des exemples de Dieu qui demande à sa création de rendre des comptes de leur action. On a vu Lucifer qui s'est rebellé, ses acolytes, Adam, Ève, Caïn et les gens de l'époque de Noé. Puis ça, c'est juste pour en nommer quelques-uns. Dans Apocalypse 20, 11 à 15, on lit « Je vis alors un grand trône blanc, et celui qui y était assis, la terre et le ciel, s'enfuirent loin de lui, et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre. Excusez-moi. Alors, je reprends au verset 12. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qu'ils étaient écrits dans ces livres. Ensuite, au verset 13, la mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leur mort. Et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Alors, selon ce qu'on voit, un jour vient où tous les incroyants se tiendront devant leur souverain pour rendre compte de leur vie. Il n'y aura pas de place où se cacher de Dieu et personne ne sera oublié. Le nom d'une personne est inscrit dans le livre de vie si elle fait confiance au libérateur Jésus. Alors, puisque Dieu est maître souverain, il demande des comptes à tous. Et encore là, c'est une vérité qu'on voit à travers les Écritures. Je vous donne deux exemples, Matthieu 12, 36. Jésus dit, « Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. » Toute parole inutile. Les paroles viennent de où? Il faut y avoir pensé avant, hein? Alors, tant qu'à moi, ça inclut les pensées, même si on ne les a pas prononcées. Alors, il semblerait que Dieu, je ne sais pas, il y a un magnétophone spécial, puis il enregistre tout ça. Puis là, on va arriver à un moment donné, il va dire, ben, tu as dit ça. Mais non, je n'ai pas dit ça. OK, on va écouter l'enregistrement. Oups. En tout cas, ça c'est ma. En tout cas, des fois, je pars en peur de même. OK, Romains, un autre verset, 14, 12. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ensuite, le numéro. Oups. Troisièmement, parce que Dieu est le maître souverain, il accomplit ses desseins. Dieu avait ordonné à l'humanité de se disperser et de remplir la terre. Mais les gens de Babel ont défié l'ordre de Dieu, puis cela n'a pas passé aperçu, d'après ce qu'on voit. Et on lit dans Genèse 11, 8 à 9, l'Éternel les dispersa loin de la terre, loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors, ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Alors, Dieu décide de semer la confusion en donnant à chaque clan petit groupe, une langue distincte, afin qu'ils ne puissent plus communiquer les uns avec les autres. Parce que là, jusqu'à ce moment, avant que ça arrive, bien là, ils pouvaient communiquer entre eux, puis qu'on va dire, tu sais, passe-moi une brique, passe-moi un peu de bitume, puis là, bien, tout d'un coup, c'était plus les mêmes mots. Puis là, bien, le gars, il demandait une brique, puis l'autre, il passait du bitume. Oui, mais c'est pas ça que j'ai demandé. Oui, mais... « Dis-le. » Puis il dit, mais c'est de la confusion totale. Hein? Imaginez-vous, non, on n'ira pas là. Alors, le résultat, c'est inévitable. Il y a un manque de communication entre eux. Alors, ils ne peuvent plus coopérer. Puis, il arrête de bâtir. Puis en plus de ça, bien là, il se disperse. Sinon, ils n'ont plus le choix. Bien, quelle langue que tu parles, toi? OK, bien, viens, on va aller se mettre ici, là. T'sais. Tu parles quelle langue, toi? Non, non, pas toi. Hein? Puis, ils se sont dispersés. C'est normal, parce qu'ils parlaient la même langue. Mais c'est des langues différentes, quoi. Alors, Dieu est souverain, puis accomplit toujours ses desseins. Il leur avait dit, remplissez la terre. Vous voulez pas coopérer? OK, faites à votre tête, mais moi, je vais m'arranger que ça va se produire en dépit, malgré votre entêtement de faire le contraire. Mais la chose est, c'est que Dieu ne manipule pas personne et ne détermine pas les décisions des gens. Il nous a créés à son image avec la liberté de choisir. Dieu honore et respecte nos décisions. Il le fait pour Adam et Ève, pour Caïn et Abel, pour les habitants à l'époque de Noé. Et on voit dans la Bible des principes en lien avec la souveraineté de Dieu. Dieu nous a créés pour refléter son image en nous donnant la capacité de faire des choix. Dieu révèle la vérité aux pécheurs, les invitant à y répondre. Et Dieu est parfaitement souverain, ce qui signifie que ses plans ne sont pas menacés ou contrecarrés par les choix des humains. Il se sert de leurs décisions pour accomplir ses desseins. Dieu est toujours à l'œuvre pour accomplir ses desseins, puis ça va se réaliser en temps et lieu. Et aucun d'entre nous, aucun gouvernement, aucune, en tout cas, qui que ce soit, ne peut contrecarrer ce que Dieu a prévu qu'il accomplirait. Et c'est évident dans le récit qu'on a ici. Dans Romains 14, 11, ça dit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu. » Alors, on doit choisir soit de nous soumettre à son règne souverain volontairement maintenant, soit de nous soumettre, se soumettre lorsqu'il viendra pour juger. Un jour, ça va arriver. Soit volontairement maintenant, puis plus tard, peut-être à contre-cœur, mais on n'aura pas le choix. Puisque Dieu est le maître souverain, il accomplit ses desseins. Dans Isaïe 14, 27, ça dit, « L'Éternel, le maître de l'univers, a pris une décision. Qui pourra y faire échec? Sa puissance est déployée. Qui pourra l'écarter? » Puis naturellement, quand en posant cette question, il s'attend à quelle réponse? Personne. Isaïe 46, 10, « Je, que l'Éternel révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. » Alors concluons en examinant ce qu'on vient de voir ce matin. Parce que Dieu est le maître souverain, il instruit tous les peuples, toute personne. La question qu'on doit se poser, est-ce que je suis à l'écoute de ce que Dieu me dit, veut me dire? Puis comment est-ce que j'écoute? Bien, il s'est révélé dans sa parole. C'est là qu'on peut aller puiser ce que Dieu a bien voulu nous communiquer. Et ce que Dieu a voulu communiquer, c'est important. Parce que c'est lui qui le dit. Moi, en tout cas, je peux me tromper, là, mais il me semble que Dieu ne dirait pas des choses pour rien dire. Alors, suis-je à l'écoute? Ensuite, parce que Dieu est le maître souverain, il demande des comptes à tous. La question qu'on peut se poser, comment est-ce que je me prépare pour le jour où j'aurai à rendre compte à Dieu? Et ensuite, parce que Dieu est le maître souverain, il accomplit ses desseins. peut se poser la question, mais comment est-ce que je collabore pour que ces desseins s'accomplissent? Soit dans ma vie, soit dans mon entourage. Et on peut méditer là-dessus le restant de notre vie. Puis chercher à saisir, à comprendre et en comptant sur l'Esprit de Dieu de nous amener à bien comprendre, à bien saisir. Le but premier de Dieu, c'est que par l'intermédiaire de son libérateur, son Fils Jésus, par son sacrifice à la croix, le sang qu'il a versé, et que par la foi en lui, chaque personne, exclue personne, puisse jouir d'une relation restaurée pour laquelle il a été créé. Cette semaine, je vous invite de lire Romains 5. Il parle de la réconciliation. Bien, il y a d'autres sujets, là, mais en tout cas. Puis, en tenant compte de ce qu'on vient de voir ce matin, demandez au Seigneur de vous aider à mieux comprendre ce qu'il a fait pour qu'on puisse être réconcilié avec lui par notre mise de son Fils Jésus. Prions. Père éternel, merci que tu es souverain. Mais en tant que souverain, tu n'es pas comme un dictateur, quelqu'un qui veut nous mettre à notre place, nous régler notre compte. Mais tu nous tends la main par l'entremise de ton Fils Jésus pour qu'on puisse être réconcilié avec toi et qu'on puisse jouir justement de cette relation spéciale que tu désires avoir avec nous. Et qu'on ne puisse pas répondre à cela comme nos ancêtres qui voulaient faire à leur tête, mais qu'on puisse se soumettre à toi, te faire confiance, désirer marcher dans tes voies et pas dans les nôtres. Au nom de ton Fils. Amen.